RCF. Planisphère, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Hugo Billard.
Bonjour à tous. L'année 2024 est une année olympique. La flamme a quitté Olympie et a été reçue par le président de la République à Marseille le 8 mai avant d'entamer un tour de France métropolitaine puis un tour du monde via nos Outre-mer jusqu'à la Polynésie française le 8 juin où elle arrivera à Paris le 26 juillet. Nombre de critiques émaillent l'organisation de ces Jeux, leur opportunité, leur coût, leur fonctionnement, les risques de sécurité, même si le succès populaire semble au rendez-vous. L'occasion est forte ici de nous interroger, non pas sur les Jeux olympiques eux-mêmes, mais sur le contexte politique dans lequel baigne le sport aujourd'hui. Mon invité va sans doute répondre que depuis la réinvention des Jeux olympiques par Pierre de Coubertin, les Jeux ont toujours eu un impact politique et symbolique fort, mais nous allons étendre notre réflexion à l'ensemble des sports et à leurs usages politiques. Bonjour Jean-Baptiste Guégan.
Bonjour Hugo.
Vous êtes professeur, journaliste, géopolitologue du sport. Après plusieurs livres sur le fonctionnement politique du football, un atlas géopolitique du sport paru chez Autrement en 2022 avec votre co-auteur Lucas Aubin, un livre sur Kylian Mbappé qui vient de paraître, vous revenez à la géopolitique après un travail également sur le Qatar. Vous revenez à la géopolitique par cette riche synthèse, La guerre du sport, sous-titrée Une nouvelle géopolitique. Là aussi, écrite avec votre complice Lucas Aubin chez Talendier. Jean-Baptiste Guégan, pourquoi a-t-on aujourd'hui besoin d'une nouvelle synthèse sur le sport et ses rapports à la géopolitique ? Qu'est-ce qui se passe dans le monde du sport aujourd'hui, Jean-Baptiste Guégan ?
De la même manière qu'on assiste au retour de la guerre sur l'échiquier international, on va se rendre compte que le sport a pris une autre dimension. Pendant très longtemps, on l'a associé au soft power, à la puissance douce. Et donc, on le rajoutait à l'influence culturelle, alors que c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. On est vraiment aujourd'hui dans un sport qui est utilisé par la majeure partie des États autoritaires comme un levier de puissance dure. C'est un moyen d'influencer les consciences, les esprits, de changer les représentations. Et donc, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'hyperconnexion du monde, on est face à quelque chose qui a pour objectif, littéralement, de s'appuyer sur la puissance de l'imaginaire. Le sport aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de changer l'image que vous avez. Pour un régime autoritaire, c'est précieux, pour une démocratie aussi. Et donc, c'est un vrai levier politique aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Et dans le contexte qu'on connaît actuellement, le sport est indispensable.
On va y revenir tout de suite, Jean-Baptiste Guégan, mais vous citez l'ancien directeur de communication du Qatar, Ahmad Abdullah Al-Mullah, disant au moment de la Coupe du Monde de football 2022, je vous cite, « Le sport est le moyen le plus rapide de délivrer un message et d'assurer la promotion d'un pays.
» Le sport, effectivement, quand on regarde, et c'est encore plus vrai que le Qatar, il y a 30 ans, était inconnu de l'immense majorité du monde. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, il a organisé la Coupe du Monde 2022, il se projette sur les Jeux Olympiques 2036. Il a de très grandes ambitions dans le sport, il sait s'en servir. Et aujourd'hui, grâce au sport, il a réussi à tisser son influence, à tirer profit finalement de ses ressources, à les transformer en levier de puissance. Et l'un des moyens, ça a été le sport. Et aujourd'hui, c'est simple, tout le monde connaît la figure de l'émir Tamim Al Thani. On l'associe au PSG, on l'associe au football, et c'est pas pour rien qu'ils ont fait ce choix-là. Le sport reste le moyen de diffusion le plus massif qui soit. C'est simple, avec la pandémie de coronavirus, le sport est la chose la plus partagée au monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait complètement oublié, qu'on ne voulait pas voir. Une Coupe du Monde, c'est la moitié de l'humanité qui est concernée. Les Jeux Olympiques de Paris, ce sera les deux tiers.
Si on part de ces chiffres-là qui sont mirobolants, en réalité, Jean-Baptiste Guégan, la question à se poser, c'est qui sont les acteurs de ce sport ? Parce qu'on connaît ces noms, la FIFA, le CIO, des noms d'organisations qui drainent des milliards de dollars chaque année. Mais les États, de fait, sont également des acteurs, les regroupements d'États, les armées peut-être également.
Effectivement, quand on regarde aujourd'hui l'organisation géopolitique du sport, on se rend compte que il y a l'organisation traditionnelle, hein, c'est les fédérations internationales, c'est la FIFA, c'est le Comité international olympique, la
Fédération internationale du football,
voilà.
Association.
Exactement. On a donc des acteurs qui sont ceux qui organisent le sport. À côté, on a ceux qui le financent. C'est les sponsors et les partenaires. C'est par exemple Coca-Cola pour les Jeux Olympiques. On a des diffuseurs. C'est beIN Sport, par exemple, qui est le premier détenteur de droits sportifs dans le monde, qui est finalement sous la dépendance du Qatar. Vous avez les sportifs, donc ceux qui concourent, ceux qui vont jouer. Et puis à côté, vous avez plein d'acteurs qui gravitent et qui s'en servent. Il y a les États. Les États aujourd'hui sont ceux qui vont accueillir et proposer leur candidature pour les Coupes du Monde, les Euros, on va le voir en Allemagne là, à l'occasion de l'Euro 2024, les Jeux Olympiques. Et toutes ces manifestations, qu'elles soient mondiales ou régionales, sont devenues aujourd'hui de véritables enjeux politiques pour se positionner sur la carte du monde. Et puis vous avez d'autres acteurs qui se servent aussi de ces événements-là pour se faire entendre, pour se faire voir. C'est les ONG. C'est aussi ceux qui veulent déstabiliser les pays qui organisent. On parle à ce moment-là de sharp power, puissance de déstabilisation. On peut imaginer par exemple que dans le cadre de la guerre en Ukraine, la Russie se serve finalement de la caisse de résonance des Jeux Olympiques 2024, d'autant qu'ils n'y sont pas acceptés, pour se faire remarquer et pour déstabiliser l'événement.
On va y revenir, Jean-Baptiste Guégan. J'ai une question, parce que vous abordez ça, mais une partie de votre ouvrage concerne la guerre russo-ukrainienne et la manière dont le sport est utilisé comme un enjeu de mobilisation populaire et en même temps un enjeu de marquage, de rapport de force entre les deux États à l'échelle mondiale. Qu'est-ce qui a fait que le sport a pu devenir comme ça un enjeu quasi militaire? En fait, il n'y a pas d'affrontement militaire de ce point de vue-là, mais c'est un enjeu d'image, un enjeu de force. On pense au JO de 1936, évidemment, on n'est pas pendant la guerre, mais où l'imaginaire, l'idéologie nazie, disons, de fait, a été abattue au JO de Munich par le coureur noir américain. Est-ce que aujourd'hui, entre la Russie et l'Ukraine, on a un enjeu du même type, qui est un enjeu idéologique, qui voit s'affronter une démocratie contre une dictature, même si les choses ne sont pas aussi carrées?
Exactement, c'est-à-dire que la dimension militaire, elle va intéresser les gens, mais à un moment donné, elle est lasse parce qu'on voit des cartes, on voit les progressions des armées, et c'est plus compliqué à raconter, on explique. Alors que le sport, c'est simple. Vous avez des sportifs qui vont porter les couleurs des pays et qui s'affrontent. Et donc, selon qu'ils sont présents, selon qu'ils se rencontrent, selon qu'ils sont sanctionnés ou absents, vous avez un discours. Or, le sport, il y a très peu de discours critiques qui accompagnent le sport. Et donc, quand on raconte le sport, on le fait finalement au premier degré. Et ce qu'on voit, c'est aujourd'hui, notamment dans le cadre de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, une vraie utilisation du sport. Le premier secteur d'activité avec la culture qui a sanctionné la Russie, c'est le sport. Avec derrière un véritable enjeu. Les principales figures, finalement, de l'opposition à la Russie, c'était Vladimir Zelensky, mais surtout des sportifs. C'est les frères Klitschko, les boxeurs. C'est Andrei Shevchenko, l'ancien footballeur Ballon d'Or, joueur du Milan AC et de Chelsea. Et donc, ils ont contribué à populariser et à rendre finalement très concrète cette lutte. Parce qu'ils se sont mis en scène dans les tranchées, parce qu'ils ont porté dans des instances où on ne les attendait pas, la parole de l'Ukraine. Et aujourd'hui, le sport est devenu le réceptacle de ce conflit-là. Et on a la même chose avec le conflit israélo-palestinien. La réactivation du conflit avec ce qui s'est passé à Gaza à la suite des attentats du 7 octobre et la réplique de l'État hébreu sous la direction de Benjamin Netanyahou se retrouve aussi dans le sport. Il y a des appels au boycott qui sont faits d'un côté, on voit des athlètes israéliens qui sont sommés de se positionner, et puis la présence d'une délégation palestinienne au jeu sera une évidence, parce que ça a toujours été le cas, et il faut s'attendre à une politisation justement de leur présence. C'est ça qui va être intéressant.
Est-ce que cette politisation du sport, on la voit aussi dans les alliances qui existent entre les États? Vous parlez beaucoup de la Chine dans votre ouvrage. Pour le coup, les rapports entre la Chine et la Russie sont étroits aujourd'hui. La Russie dépend de plus en plus de la Chine. Est-ce que ça se voit également dans le sport?
Alors, ça se voit de manière même assez impressionnante. Si on se souvient des Jeux de Beijing en 2022, donc c'est les Jeux d'hiver, à la demande de Xi Jinping, le président chinois, Vladimir Poutine va retarder le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il va attendre une semaine pour une raison très simple. Il fallait que Xi puisse boucler ses jeux, montrer finalement que la Chine était présente sans avoir d'interférence et sans que le sujet des Jeux Olympiques chinois soit placé au second plan. Ça montre quelque chose. Ça montre d'abord le rapport finalement asymétrique entre les deux. La Chine reste aujourd'hui la puissance dominante et la Russie y est connectée. Et de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est l'avant-scène des relations internationales que constitue le sport. La Chine l'a très bien compris. Elle y investit massivement. Il faut s'attendre à ce que la Chine soit au moins dans les deux premières nations médaillées à Paris, et elle saura mettre ça en scène. Après, ce qu'on va voir aussi, c'est comment elle va se positionner par rapport à la présence russe. On est susceptible encore aujourd'hui d'avoir des sportifs russes sous pavillon neutre à Paris. On verra comment le discours finalement chinois va s'organiser. On a vu avec Xi Jinping au Tourmalet récemment. C'est pas anodin pour Emmanuel Macron de le recevoir dans ce contexte-là. Et on n'a pas eu de grande discussion autour des Jeux. Bon, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. S'il est présent, par exemple, à Paris pour la cérémonie d'ouverture, parce qu'il sera invité, et quel discours il va le tenir avant, pendant et après.
Donc les Jeux sont en fait le lieu d'une mise en scène des relations entre les États. Le sport est un outil des États pour étaler leur puissance, leur coopération, leur influence. Vous parlez de désoccidentalisation du monde qu'on voit également dans le sport aujourd'hui. C'est une expression qu'on utilisait plutôt pour dire en économie que les pays émergents, les BRICS, l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie même, prenaient une part de plus en plus importante dans l'économie mondiale, même s'il faut la relativiser. Est-ce qu'on la voit autant dans le sport ? On a quand même l'impression, nous, vu de nos télévisions, de nos radios, de nos journaux, on a quand même l'impression que globalement, sont les grandes équipes, les grands sportifs sont quand même d'abord des Nords.
Alors, si vous voulez comprendre le monde aujourd'hui, le moyen le plus simple, c'est de regarder les palmarès mondiaux et de regarder comment finalement on gagne et qui gagne. Les grandes tendances mondiales se retrouvent dans le sport et elles y sont beaucoup plus lisibles qu'ailleurs parce que tout le monde est présent. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir par exemple que cette désoccidentalisation, elle se fait à tous les niveaux. On a de plus en plus de pays représentés. On a finalement une déconcentration des victoires. C'est-à-dire que ce qu'on appelait les Nords avant ne gagne plus la totalité des médailles. Au contraire, on a une sorte d'éparpillement. On voit d'autres centres de gravité. Je pense par exemple au Golfe arabo-persique avec l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar surgir. On voit des acteurs africains capables de se spécialiser pour performer.
C'est-à-dire que ce qui se voyait auparavant aux Jeux Olympiques dans lesquels les Suds étaient présents se voit maintenant dans tous les sports.
On le voit dans tous les sports. On voit par exemple des lanceurs de javelot qui viennent d'Afrique du Nord, notamment du Maroc, être capables de dominer les bilans mondiaux. On voit un Qatarien être le meilleur sauteur en hauteur, c'est Barchim. On voit finalement aussi dans le tennis des nationalités qu'on ne voyait pas auparavant. Et donc on constate une mondialisation des performances. Et cette mondialisation, j'ai presque envie de dire cette remondialisation du sport, elle se traduit aussi dans la gouvernance. On n'a jamais eu autant de présidents de fédérations étrangères, de fédérations sportives qui sont issus des Suds, et notamment de ce qu'on appelle, même si l'expression pose problème, du Sud global. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, à la tête de la Fédération internationale automobile, un Émirati. On commence à voir monter dans toutes les instances des acteurs issus du Golfe arabo-persique, mais aussi des Chinois, à l'instar de ce qui se passe dans les grandes instances internationales, je pense à l'ONU et je pense à l'ensemble des institutions onusiennes. On commence à voir, justement, d'abord une volonté d'entrisme. On a de plus en plus d'acteurs qui sont extra-occidentaux. Et surtout, ça traduit aussi un changement des rapports de force.
Est-ce qu'on n'est pas dans une normalisation, finalement ? Est-ce que le fait que le Nord Trust contrôle une grande partie du sport mondial pouvait être vu comme étant une forme, pardon l'expression, mais de continuation de la colonisation par d'autres moyens ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'assiste pas à une normalisation de ce point de vue-là ? Ou est-ce que c'est vraiment un conflit Nord-Sud qui continue par d'autres biais, Jean-Baptiste Guégan ?
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les rapports de force globaux contemporains se traduisent dans le sport. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est d'abord une déseuropéanisation. Il y a de moins en moins d'Européens. Les Américains sont toujours...
Vous dites désoccidentalisation dans votre ouvrage, mais il y a une déseuropéanisation particulière.
Voilà, c'est-à-dire que dans la désoccidentalisation qui se produit, ceux qui perdent le plus, ce sont les Européens. Et paradoxalement, si ça se fait dans la gouvernance, si ça se fait dans les résultats, ça ne va pas se faire dans les sports. Les sports pratiqués restent des sports européens. Les valeurs qui les accompagnent sont encore des valeurs européennes qui sont occidentalisées. Et ce qu'on constate, c'est que le sport dominant, qui est le football, reste dominant. Le basket, qui est un sport fondamentalement nord-américain, créé aux États-Unis par un Canadien et aujourd'hui globalisé, reste un sport qui est privilégié par le monde entier. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que si... dans les institutions, ça change. Si dans les résultats, ça se transforme, il n'y a pas de jeu venant du sud global qui s'impose à l'échelle globale. Il y a une exception. Alors, ça va commencer véritablement là avec les Jeux de Paris 2024. c'est le cricket, mais à la sauce indienne, c'est le 2020.
C'est un sport anglais.
Alors, c'est un sport anglais, mais qui a été, dont les règles ont été adaptées par la diaspora finalement indienne, et qui a pour but de le rendre plus bankable, c'est-à-dire
qui rapporte plus d'argent,
plus susceptible de rapporter davantage à ceux qui en font la promotion. Et là encore, ce qu'on constate, c'est qu'on a d'abord des Indiens, des gens des diasporas indiennes et des Américains d'origine indienne qui vont promouvoir ce nouveau format cricket, qui est beaucoup moins long, beaucoup plus facile à lire, beaucoup plus facile à suivre, et donc à diffuser. Et c'est là où justement la désoccidentalisation du monde se traduit véritablement. On voit finalement dans le sport les rapports de force mondiaux se refléter de manière beaucoup plus lisible. Il suffit de regarder la trace laissée par finalement l'Union européenne, l'absence même d'équipe de l'Union européenne.
C'est pas un État, Jean-Baptiste.
Alors, c'est pas un État, mais on aurait pu justement imaginer une équipe européenne. Et on sait pertinemment pourquoi ça n'est pas possible. Parce que les États en tirent profit avant tout. Et on n'est pas encore dans une logique supranationale. Et ce qui est très intéressant là, c'est de voir que on reste dans un monde d'États. On reste dans un monde où les États se concurrencent finalement et entrent en compétition les uns avec les autres dans le sport. Et dans ce cadre-là, on voit aussi les nouvelles dynamiques. Par exemple, un pays comme l'Indonésie. Personne ne l'attendait là. Or, aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'avec plus de 200 millions de personnes, vous pouvez avoir une carte à jouer. La Tanzanie. Le rapport qu'on a par exemple avec l'Éthiopie ou la Somalie, ils sont aujourd'hui en capacité de produire des sportifs. Le Maroc, imaginez que le Maroc en 2030 va co-organiser avec l'Espagne et le Portugal une Coupe du Monde, c'était inattendu. Et puis il y a l'Inde, c'est-à-dire c'est littéralement l'éléphant dans la pièce, un palmarès olympique qui ne correspond pas du tout à la puissance économique et au bassin démographique indien. Et aujourd'hui la première démographie mondiale qu'est l'Inde va, sous la férule de Narendra Modi, essayer d'aller chercher un maximum de visibilité, de pousser finalement la puissance indienne par le sport, parce qu'ils ont besoin de cette dimension-là. Et c'est là où, justement, regarder le sport est intéressant.
Oui, on parlait il y a quelques semaines à ce micro encore de l'Inde et de la manière dont Narendra Modi pouvait derrière utiliser le sport et notamment le yoga comme étant un élément politique d'expression de la nation indienne. Une question en parallèle, Jean-Baptiste Guégan, si l'Inde réussit à donner cette petite voix personnelle à l'échelle des Suds, est-ce que la France peut être cette petite voix à l'échelle des Nords, justement, en termes sportifs?
Alors la France peut et va être cette petite voix parce qu'elle l'a toujours été. À l'échelle de l'histoire olympique, la France est la cinquième pourvoyeuse de, la cinquième puissance en termes de médailles récoltées. C'est l'un des pays qui a le plus organisé d'événements de taille internationale en dehors des États-Unis et l'Allemagne. Et ce qu'on constate, c'est que la France aujourd'hui a une vraie carte à jouer. Avec un problème, c'est que aujourd'hui, on est capable de se positionner à l'échelle mondiale au cinquième rang. C'est-à-dire qu'on est, parce qu'on est extrêmement fort dans notre maillage sportif, parce qu'on est, on a un financement d'État très fort et parce qu'on a quand même une vraie expertise, on est capable de produire des champions.
Est-ce qu'il y a, on entend régulièrement des polémiques autour du financement du sport, autour du financement des associations sportives locales. En fait, les sportifs, les champions dans 20 ans sont ceux qui aujourd'hui rentrent sur un terrain de football, un terrain de basket, dans une équipe de judo, etc. Quel est vous qui connaissez bien tous les acteurs du sport français, du sport mondial également, mais du sport français notamment, Jean-Baptiste Guégan, que disent-ils de cette capacité de la France d'ici 20-30 ans à produire autant de champions?
Alors cette capacité finalement de la France, elle va d'abord s'appuyer sur un changement de modèle. Aujourd'hui, on ne produit plus les champions comme on les produisait il y a 10 ou 20 ans. La révolution numérique est là, on a davantage professionnalisé et donc ça demande beaucoup plus de moyens. L'État est en retrait partout et donc aujourd'hui, il faut que l'action privée ou des stratégies différentes se mettent en place. Donc le modèle français est en train de changer.
Comment est-ce qu'on formait des champions avant ?
Alors avant c'était simple, le modèle de production du champion c'est d'abord un modèle de performance familiale, c'est-à-dire que ça s'appuyait d'abord sur la famille, ensuite la famille orientait vers les fédérations et il y avait tout un système finalement de détection, de formation et de professionnalisation par les fédérations, donc indirectement par la puissance publique.
Donc ça se fait à l'échelle communale, à l'échelle départementale,
exactement.
À l'échelle nationale.
Voilà, on a une approche multiscalaire qui est, faut le dire aussi, grandement copiée sur l'ancien modèle de la RDA. Donc on s'est beaucoup appuyé sur le fonctionnement et ça explique pourquoi par exemple la France est l'une des premières pourvoyeuses de talents footballistiques, parce qu'on a été capable d'avoir un maillage probablement parmi les plus fins au monde, ce qui explique la génération de talents. Maintenant, avec l'absence de moyens, l'accroissement de la concurrence, ça va être de plus en plus compliqué d'être présent sur tous les sports. Donc on est sur un modèle qui se rapproche de ce que font les Anglais, de ce que commencent à faire aussi les Allemands, c'est-à-dire on va choisir les sports où les investissements vont être les plus pourvoyeurs de médailles. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'une nation sportive, pour reprendre les mots du président ? Peut-être pas. Est-ce que la France va rester une puissance sportive ? Probablement, parce que c'est directement corrélé au niveau de puissance scientifique. Aujourd'hui, on le sait. Donc pour l'instant, on est encore en capacité de lutter. Peut-être que dans 10 à 15 ans, ce sera moins le cas. Et vraisemblablement, on devrait, à l'instar du classement économique français, reculer dans les bilans. Mais on aura toujours une expertise, a fortiori si on réussit les Jeux de 2024.
Vous êtes en train de nous dire qu'il se passe dans le sport ce qui s'est passé dans les sciences, c'est-à-dire le fait de voir le niveau de mathématiques baisser progressivement fait que le nombre d'ingénieurs de haut niveau, le nombre d'inventions de haut niveau présentes dans un grand nombre d'entreprises commence à baisser également. C'est quelque chose qu'on va voir dans le sport avec un maillage sportif moins important, moins d'argent donné dans la formation des enfants, fait que derrière on a moins de champions.
Il est fort probable qu'on arrive à cette tendance-là. Après,
Inverser la tendance, Jean-Baptiste ? Comment est-ce que c'est à l'échelle européenne que les choses sont possibles ?
D'abord, il faut aider l'école. Ensuite, il faut donner des moyens. Et en tout cas, mieux les répartir. Débureaucratiser l'ensemble serait plutôt intéressant. Décloisonner aussi, parce qu'aujourd'hui, on a une approche peut-être trop fonctionnarisée. Ça manque d'agilité. L'affectation des ressources joue. Les ressources, elles sont à la fois financières, mais elles sont aussi humaines. Et ça, y a un vrai déficit là-dessus. On le voit, il y a trop de positions acquises. Il n'y a pas de remise en cause, alors, sauf dans certaines fédérations. Donc là, on est plutôt sur un état qui serait stratège et qui, pour l'instant, n'a pas encore véritablement réussi sa transformation dans le sport. Et puis, on manque de financement privé en France. On a du mal à avoir des sponsors qui ont compris l'intérêt d'aller investir dans le sport pour plein de choses. Comparativement à l'Autriche, à l'Allemagne, à l'Italie ou même à l'Angleterre, on est en retrait. On n'a pas assez de gens qui financent le sport, ou alors ils le font de manière très dilettante.
Alors pour financer le sport, encore faut-il qu'il soit attractif aussi humainement, et on assiste dans le sport, comme on assiste dans le cinéma et dans un grand nombre de sujets, à une sorte de grand nettoyage des inégalités existantes, des violences sociales, sexuelles, etc. etc. Est-ce que pour le coup, ce qui se passe dans le sport aujourd'hui, avec des dénonciations attendues, hein, une judiciarisation du processus, des rapports hommes-femmes beaucoup plus compliqués derrière, vous avez toute une partie de votre ouvrage sur la question du genre. Dans le sport, c'est neuf pour le coup, donc autant le signaler. Toute cette question du genre, elle semble s'opposer avec ce que vous appelez au début du livre la sportocratie, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une structure organisée, construite, de valorisation et en même temps de diffusion d'argent et de modèles à l'échelle mondiale. Est-ce que cette transformation du sport aujourd'hui, elle ne va pas avec un grand nettoyage général ?
Alors, les fractures du monde contemporain se retrouvent dans le sport, et là, on en a un exemple. La question du genre, elle vient fracturer, finalement, la volonté de certains États de récupérer, finalement, le sport et de l'utiliser à des fins très conservatrices. Et de l'autre côté, on a des pays qui sont, finalement, confrontés à un éclatement de leur modèle traditionnel. La question des violences sexuelles, la question des violences psychologiques, aujourd'hui, sont vraiment au cœur, finalement, des fédérations. Fédérations vieillissantes, fédérations qui n'ont pas encore fait leur renouvellement générationnel et qui aujourd'hui font face à des logiques qui leur échappent. Donc aujourd'hui, le choc est frontal. À l'image du cinéma, hein, c'est assez proche. On est sur des milieux très conservateurs qui fonctionnent sur l'entre-soi et d'un coup, ça éclate. Et souvent, avec une approche qui est extérieure à la France, c'est-à-dire que ce ne sont pas des concepts français, ce ne sont pas des idées françaises. Et donc, ça, on a finalement le monde qui... finalement, on va rentrer en conflagration avec nos représentations, avec les fédérations, et ça donne ce type de conflit. Est-ce que c'est bien ? Oui, parce que ça fait bouger l'ensemble. Est-ce qu'on va arriver à des résultats ? Ça complique la gouvernance, ça complique la performance. Est-ce que c'est dans le bien de tout le monde ? Évidemment, parce qu'on parle enfin et on change les comportements, Est-ce que ça va durer? On verra après 2024.
Alors, vous avez toute une partie de votre ouvrage sur la question du corps de l'athlète, la question du corps du sportif. Je laisse les auditeurs y aller. C'est vraiment très, très intéressant pour décentrer un peu notre regard sur la manière dont fonctionnent les athlètes aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant là, dans ce que vous dites aussi, Jean-Baptiste Guigan, c'est le décalage entre les décideurs et ceux qui agissent pour que le sport fonctionne, avec d'un côté le greenwashing, donc la manière dont on utilise le climat, dont on utilise l'environnement dans le sport, le cyberespace et la manière dont en fait il faut derrière réussir à construire un sport qui puisse se diffuser par des biais qui soient des biais non physiques. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un décalage tellement important entre les décideurs et les décidés, si j'ose dire, que le sport en soit menacé? Réponse courte.
Le sport est menacé parce qu'aujourd'hui il fait face à des défis que les gens qui organisent le sport ne comprennent pas. Et on le voit avec le livre, la question du genre, la question du sexe, la question écologique et environnementale et tout le reste aujourd'hui sont inaccessibles pour l'immense majorité des gens qui sont à la tête des fédérations et des décideurs du sport. Soit ils refusent de voir, soit ils comprennent pas. C'est un vrai souci.
D'un mot, qu'est-ce que le politique peut faire là-dedans?
Réfléchir, agir, rassembler. Et puis, croisez les doigts.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Guigan. Je renvoie nos auditeurs à votre La guerre du sport, une nouvelle géopolitique aux éditions Talendier. À tous, à la semaine prochaine. D'ici là, comme le dit le grand Philippe Meyer, que le ciel vous tienne en joie.